La Russie n'a jamais réellement accepté le démembrement de l'Union soviétique. Et la Russie, dans la personne des politiques, des gens qui dirigeaient la Russie, a toujours dit que c'était une catastrophe pour elle. Moi, je suis convaincu que M. Poutine fait tout pour annexer une autre partie de l'Ukraine, ou pour annexer la Moldavie, ou la Transnistrie. C'est une partie d'un grand plan de renouvellement de l'ex-Union soviétique. C'est ce qui est en train de se dérouler. Et je crois que les amis polonais ont bien conscience de cela. Et c'est pour cela qu'ils alertent, comme ils sont membres de l'OTAN, de l'Union européenne, qu'ils alertent tous leurs collègues. Faites attention, intervenez, parce que la situation est très grave.
Est-ce que, selon vous, le pays pourrait basculer dans une guerre civile ?
Pas guerre civile, mais guerre contre l'invasion russe. Il n'y a pas de guerre civile, il n'y avait pas de guerre civile ni en Crimée, ni dans les parties de l'Est de l'Ukraine. Aujourd'hui, on a des preuves que ce sont les Russes qui ont organisé toutes les démonstrations anti-ukrainiennes, les débordements qui ont eu lieu la semaine dernière.
Parce que selon vous, les Ukrainiens et les Russes n'ont pas de difficulté à vivre ensemble en Ukraine.
Il n'y a pas de difficulté de ce genre. Si vous écoutez ou lisez les poètes, les intellectuels, les artistes, les gens de la société, eh bien, il n'y a personne qui vous dira qu'il a eu des difficultés de parler le russe ou de développer la culture ou la langue russe en Ukraine. C'est-à-dire, à mon avis, ce sont les Ukrainiens qui ont cette difficulté de développer leur culture. Vous devez savoir que nous sommes dans un pays post-colonial où la culture russe et la langue avaient la primauté sur toutes les autres langues. Bien sûr, si l'Ukraine est devenue indépendante, si l'Ukraine a sa propre langue, et si cette nation, ce gouvernement proclame cette langue comme la langue officielle, c'est tout à fait normal. Mais ça ne veut pas dire que la langue russe ne se développe pas, que les russophones n'ont pas de liberté, ils ont une liberté totale. Si vous regardez, par exemple, le nombre de journaux, 90% de la presse écrite est russophone en Ukraine. Si vous regardez les programmes de télé, eh bien aussi 80% des programmes de télévision sont en russe. De quoi on parle alors ? Quelle persécution, de quelle difficulté
Et comment expliquez-vous alors la décision du nouveau gouvernement de supprimer la langue russe ?
Il n'y a pas eu de décision de suppression de la langue russe. Le gouvernement précédent avait donné des avantages à la langue russe. Et ce gouvernement a supprimé ces avantages en disant que la langue russe devait être au même niveau que les langues des autres minorités en Ukraine.
Et comment peut-on expliquer que le mouvement qui a commencé à Kiev se concentre aujourd'hui sur la Crimée ?
Nous avons une invasion militaire, nous avons un début de guerre. Nous ne pouvons pas être en train de résoudre nos problèmes. Nous devons signer une union nationale pour résoudre ce problème. Ça veut dire que le garant de nos frontières, celui qui disait qu'il était notre grand frère, la Russie, eh bien, a profité d'un moment où nous étions faibles pour nous attaquer. Et pour le moment, eh bien, nous sommes en train de nous unir pour aller de l'avant. L'Église gréco-catholique demande à chaque fidèle de prier, demande aux hommes de ne pas avoir peur d'aller se porter volontaire dans les sections armées. Et l'Église dit aux prêtres gréco-catholiques qui sont en Crimée d'être très prudents, mais d'autre part, ne pas avoir peur de continuer leur mission. Je veux dire, c'est un peu ce qu'on essaie de faire. On essaie d'être calme, mais d'autre part, de nous préparer à une plus grande invasion.
Et justement, concernant les fidèles gréco-catholiques, est-ce qu'ils craignent pour leur survie en Crimée ?
Non, je ne crois pas qu'ils craignent pour leur survie. Mais ça veut dire, si on parle de la Crimée, eh bien, en premier lieu, il faut que nous ayons peur, pas pour nous les chrétiens, mais pour les Tatars de Crimée, qui ont déjà été déportés quand la Crimée appartenait à la Russie par Staline. Et aujourd'hui, ça peut se répéter.
Donc vous pensez qu'ils ne sont pas en danger malgré qu'un prêtre ait été enlevé ?
Oui, ce sont des milices qui ont enlevé un prêtre, qui l'ont libéré peu après. Ça veut dire que je ne crois pas que c'est une chose très grave.
Et donc les églises d'Ukraine ont joué un rôle ensemble pour rétablir la paix dans le pays. Elles ont parlé d'une même voix. Qu'en est-il aujourd'hui ?
Celles qui ont parlé d'une même voix au Maïdan continuent à parler d'une même voix. La grande déception pour les églises, c'est que nous attendons quelques paroles de paix et quelques paroles de protection pour les Ukrainiens de la part du patriarche de Russie. Mais il n'y a pas de ces paroles. D'autre part aussi, si on écoute les églises de Russie, nous n'entendons rien contre la guerre. C'est-à-dire qu'aucune de ces églises, même l'église catholique en Russie, n'a rien dit